ainda facilement, chacun dans une grâce. Te prions pour que, particulièrement cet après-midi, tu puisses nous permettre d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire à travers ta parole et à travers cette magnifique lettre aux Éphésiens qui a écrit notre frère Paul. Et te prions vraiment pour que tu puisses nous parler, nous encourager et qu'on puisse appliquer ce qu'on va étudier ensemble. Je te prie pour que tu nous guides dans tout cela et je te prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous propose de faire un petit récapitulatif du contexte de la lettre aux Éphésiens. Donc la lettre aux Éphésiens, c'est une lettre que Paul, l'apôtre Paul, a écrite lorsqu'il était en prison. Donc dans Éphésiens 3, verset 1 et Éphésiens 4, verset 1, Paul dit qu'il est emprisonné. Et il s'agit certainement de son emprisonnement qui a eu lieu à Rome, à la fin de l'Acte notamment, et vers la fin de sa vie. Et cette lettre daterait donc du début des années 60 après Jésus-Christ. La vie d'Éphèse, c'est ici. Vous savez qu'il y a des lettres des Philippiens, Philippe c'est ici, Thessalonique c'est ici, Corinthe c'est là. On a eu la Galatie qui est toute cette partie qui était là, et c'est la lettre Galate qu'on a fini il y a 2-3 semaines. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans la lettre aux Éphésiens. En fait, c'est un peu compliqué de savoir quels étaient exactement les destinataires de cette lettre. Ma mère, Eliane, l'a déjà soumis la semaine dernière. En fait, le terme, comme on le disait Éphésiens 1, verset 1, le terme aux Éphésiens, dans certaines villes, il est entre crochets. Et en fait, ce terme n'apparaît pas dans tous les manuscrits, notamment les plus anciens. Et quand on regarde le ton de la lettre, et qu'on le compare avec les autres lettres de Paul, en général, c'est vraiment différent. Il ne fait pas allusion à une situation précise. Vous savez, quand il parle aux Corinthiens, il disait, concernant le mariage, tac, 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 il répond aux questions. Et là, on n'a pas forcément l'impression qu'il répond à une question en particulier, et du coup, c'est ce qui brouille un peu l'Église. Néanmoins, les pères de l'Église, et je ne vais pas aller plus loin, beaucoup de spécialistes s'accordent pour dire qu'il s'agit plutôt d'une lettre circulaire. Donc, excusez-moi, les spécialistes, mais ce n'est pas forcément les pères de l'Église, les spécialistes, aujourd'hui, sont plutôt d'accord pour dire qu'il s'agit d'une lettre circulaire. Qu'est-ce que c'est? En gros, Paul a écrit une lettre qu'il a fait porter par son frère Tychique, vous voyez ça dans Éphésiens 6 de la fin, verset 21. Et Tychique a mis cette lettre à la vue d'Éphèse, et ensuite il a demandé à ce que cette lettre soit diffusée dans la région environnante. Voilà. Donc c'est une lettre circulaire, ça c'est un peu la théorie, mais c'est une hypothèse qui a pu considérer à partir des éléments qu'on a historiques et du texte. Donc la lettre des Éphésiens, je propose de la découper en quatre parties, et nous sommes dans la partie de la nouvelle vie. Nous verrons en deuxième partie la nouvelle société, les nouvelles normes, en partie 3, et enfin de nouvelles relations en partie 4. Aujourd'hui, le passage qu'on va lire, c'est, qu'on a déjà lu, c'est Éphésiens 1, verset 15 et verset 23, donc nous sommes dans la partie 1 et en plein milieu. Nous avons vu avec Eliane la semaine dernière que nous avions notre identité en Christ, et le fait que nous étions en Christ, on peut voir qu'il nous a comblés, il nous a choisis, il nous a aimés, il nous a prédestinés et élus. Ça rentre avec le choisi, nous a adopté et nous a donné le Saint-Esprit. Toutes ces choses sont des choses que nous avons en Jésus-Christ. Et donc, les chrétiens sont élus par rapport au passé, adoptés par rapport au présent, nous sommes frères et sœurs, nous sommes fils de Dieu, et nous sommes unifiés, glorifiés, et ça, c'est le futur. Et en fait, c'est vraiment super fort, parce que dans la Bible, il y a un passage qui dit exactement ce que Eliane a prêché la semaine dernière. C'est Romains 8, verset 28 à 30. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ce qu'il a connu d'avance, il nous a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il a aussi glorifié. Nous avons vu la semaine dernière que le chrétien était premièrement prédestiné, qu'il s'agissait d'une bénédiction passée, c'est-à-dire que c'est l'élection qui permet à la personne de passer du statut de non-sauvé à sauvé, de non-chrétien à chrétien, d'une condition d'homme naturel à homme spirituel. Homme spirituel parce qu'il reçoit le Saint-Esprit qui vient vivre en lui. C'est ce qu'on appelle la bénédiction passée, c'est bien ce que tu as dit. Ensuite, nous voyons que le chrétien est appelé il est justifié, il est adopté. Le chrétien est déclaré juste grâce à sa foi dans ce que Jésus-Christ a fait pour lui à la croix. Il nous a adoptés car nous sommes. Il est mort pour nos péchés afin que nous ayons la vie éternelle, Jean 3,16. Il nous a rendus justes devant Dieu. Ainsi, il nous a adoptés car nous sommes maintenant frères et sœurs en Jésus-Christ. Et nous sommes les enfants de Dieu. Et Jésus-Christ, lui, était le premier de nous, les frères, comme dit le passage de Romains 28-30. Et c'est ce qu'on appelle la bénédiction récente. Et enfin, nous sommes également glorifiés en tant que chrétiens, car nous allons recevoir un corps glorifié au retour de Jésus-Christ dans la fin des temps. Et donc, dans cette première partie, on voit que Paul bénit Dieu pour la bénédiction que les chrétiens ont en Christ, les chrétiens éphésiens. Et dans la partie qu'on va voir aujourd'hui, Paul demande à Dieu d'ouvrir leurs yeux afin qu'ils comprennent cette bénédiction. Donc, je vous propose de découper le texte d'aujourd'hui en deux points. Et le premier point, c'est assez simple, c'est le cœur d'intercesseur de Paul. On va voir directement des applications pratiques par rapport à ça. Et enfin, on verra le steak. Parce que le steak, c'est le contenu de l'intercession, qui est un contenu très riche. Donc, le cœur d'intercesseur de Paul. Paul a entendu parler de la foi en Jésus, de la foi en Jésus et de l'amour des Éphésiens pour les croyants. Et il remercie Dieu pour cela. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ici, il utilise deux termes. Donc, le mot foi et le mot amour. Tout chrétien croit et aime. Et ce qui fait penser aussi, même si vous savez, il manque un mot, je pense, parce qu'on parle de foi, d'amour, et un mot qui manque, c'est l'espérance. Et en fait, ce mot-là ne manque pas du tout, il est au verset 18. Il nous dit de le cœur pour que vous sachiez qu'il y a une espérance qui s'attache à son appel. Plusieurs fois dans la lettre de Paul, il y a ces trois mots qui apparaissent: foi, espérance, amour. Ce qu'on appelle la trilogie paulinienne. Ça, j'ai cherché dans le livre. Donc voilà, trilogie paulinienne, c'est, j'ai écouté quelqu'un qui dit foi, espérance, amour, c'est la trilogie paulinienne. Et cette trilogie, vous la connaissez, qui est rendue célèbre en étant 1 Corinthiens 13-13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, je vous propose de voir, dans ce cadre-là, la première application que nous pouvons en tirer pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous sommes comme les Éphésiens? Est-ce que nous avons une telle foi agissante que des frères et sœurs remercient Dieu à cause de notre foi et à cause de notre amour? Bien, si ce n'est pas le cas, cherchons à obéir à Dieu, à nos leaders et particulièrement à notre pasteur. Mais ce n'est pas tout. Servons-nous les uns les autres. Portons les fardeaux les uns des autres. Encourageons-nous les uns les autres. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu, de Jésus en nous. Laissons-lui les commandes pour qu'il nous aide et faire les œuvres que Jésus faisait, c'est-à-dire aider, soutenir, bénir, apporter la bonne nouvelle. Et plus les gens verront ces bonnes œuvres, plus les gens rendront grâce à Dieu. Et nous, de notre côté, nous pourrons dire avec humilité, nous ne sommes que des co-serviteurs qui avons fait notre devoir, toute la gloire revient à Dieu. Première application. Est-ce qu'on a tellement une foi tellement agissante qu'il y a des personnes qui remercient Dieu pour nous? Une autre application, est-ce que finalement on n'est pas plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on serait comme Paul et qu'on remerciait Dieu pour l'encouragement d'autres frères et sœurs? Est-ce que nous sommes comme Paul, nous remercions Dieu pour l'encouragement d'autres frères et sœurs? Ou est-ce que nous sommes ingrats et que nous considérons que cela est un jugement? Peut-être pensez-vous à quelqu'un en particulier que vous pourriez bénir par vos encouragements, quelqu'un à qui vous pensez là, maintenant, quelqu'un peut-être qui agit dans l'ombre et qu'on peut parfois oublier, ou peut-être quelqu'un qui fait des choses tellement banales que c'est devenu normal pour vous que cette personne serve de la sorte. Et la question, c'est: est-ce que vous priez pour cette personne? Est-ce que vous pourriez prier maintenant pour cette personne? Et je vais vous donner quelques exemples. Je vais recevoir notre sœur Alice faire la vaisselle avec Marie, la femme de ton. Et je pense que moi-même, le premier concerné par ce péché d'ingratitude. Et tout à l'heure, je voyais Marie et je voyais Laurent qui servaient à la vaisselle. Et là, aujourd'hui, je vais en profiter devant tous pour vous remercier pour votre service. Dieu voit tout et il aime ce que vous faites pour lui. Faire la vaisselle, c'est
vous le menez à travers ça. Le temps que vous passez à faire la vaisselle, on se rend compte que c'est du temps que vous ne pouvez pas profiter pour les autres. Donc, merci. Je pense aussi à la surveillance des enfants du dimanche après-midi en plein culte. Je pense à Sylvia, Laïe, Bernard et Yann. Ces personnes qui passent du temps pendant le culte à prendre soin des enfants, de leur activité, et qui ne peuvent pas être bénis par la prédication. Et franchement, j'ai envie de vous dire tous merci pour vos sacrifices et vos services. On ne se rend pas forcément compte, mais merci. Je pense également à notre frère Abraham. Abraham, c'est un peu l'homme à tout faire, il s'occupe de projeter le PowerPoint tous les dimanches. Il enregistre sa prédication qu'il a mise sur le site web. Sauf qu'Abraham, t'as pas fixé pour ma mère la semaine dernière.
J'explique.
Et quand je vois Abraham faire ça toutes les semaines, et pour moi, en fait, c'est devenu une habitude. C'est presque une normalité. Mais c'est assez frustrant parce que lorsqu'il doit faire passer les paroles des chants, vous savez, c'est qu'il faisait passer les paroles des chants tout à l'heure. Il ne peut pas autant profiter de la louange que nous, en fait. Il ne peut pas se lever, avoir une langue verte, fermer les yeux, parce que, imaginez si quelqu'un nous serait encore en train de chanter pour la quatrième fois le premier couplet de Béni soit ton nom, et je pense qu'il y aura un problème. Donc merci, Abraham, pour ce que tu fais, et au nom de l'Assemblée, encore merci. Donc voilà, ça peut aussi concerner des leaders qui font des choses de l'ombre. Et je voudrais m'attarder sur Pasteur Nguyen. J'en profite qu'il n'est pas là. Pasteur Nguyen, c'est un peu comme Inspecteur Gadget. C'est-à-dire qu'il sait tout faire. Tailler les haies devant l'église, pas de soucis. Faire à manger quand il y a besoin, pour une activité ponctuelle, sans problème. Faire des travaux de plomberie avec Monsieur NG. Monsieur NG, vous savez, c'est le diacre qui a l'intendance de la partie sino. Il fait en sorte que le bâtiment tienne à peu près debout, qu'il fonctionne correctement. C'est grâce à lui. Merci. Donc, quand il fait des travaux de plomberie avec Monsieur NG, Pasteur Nguyen, encore un autre truc. Mais ce n'est pas tout. Pasteur Nguyen rend visite à beaucoup de personnes dans la partie sino. Sinon, c'est pas sinon, enfin, c'est d'habitude. Et il y a moins des personnes âgées qui ne connaissent pas Dieu que, par exemple, Eliane, ma chère maman, a commencé à évangéliser. La sœur est jardinier, plombier, cuisinier, berger. Et encore, je suis certain qu'il y a encore d'autres choses que j'ignore. Et d'ailleurs, on peut avoir une pensée pour la sœur parce qu'il a prêché en français au culte ce matin au Sénégal. Donc, et ensuite, il a été traduit en wolof. Donc, c'est pas compliqué de faire chinois à français, je pensais à wolof. Moi, je vous dis, la prochaine fois, pour un pasteur, on vous remercie tous et on vous force à prêcher en français. Ça marche ? J'aimerais aussi citer David Nguyen, qui est parmi nous, qui n'est pas diacre, mais ça n'empêche qu'il travaille tout autant qu'un diacre. C'est lui qui se démène pour former les équipes de louange. Et comme il y a une indisponibilité, c'est lui qui contacte les membres du groupe de louange pour décaler et échanger les rôles. C'est aussi lui qui s'occupe de mener les répétitions pour les deux derniers concerts de louange. Et croyez-moi, c'est pas tout repos. C'est aussi lui qui gère le groupe de maison de Paris. Il a également le but des clés de l'église, ce qui est bien et pas bien à la fois pour lui, je pense. Mais c'est-à-dire que quand Pasteur n'est pas là, c'est lui qui se dévoue pour venir ouvrir à l'église. Donc voilà. Merci David, etc. etc. On pourrait continuer à remercier d'autres personnes auxquelles on ne pense pas forcément tout de suite. Et voilà, il faut juste prendre son temps pour ça. Maintenant, passons au steak. Verset 16, verset 23. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je m'arrête à la fin. Au verset 17. Donc Paul prie pour que Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, leur donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, et ensuite qu'il illumine les yeux de leur cœur. Vous savez que ce passage, verset 15, verset 23, en grec, c'était une phrase entière. Donc les traducteurs ont essayé de faire un peu, c'est un peu plus analysé, parce qu'une phrase. C'est Paul, quand il écrit la lettre, il était tellement lancé que c'était un grand champin et il est parti, une phrase en entier. Et on voit dans ce passage qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, Jésus-Christ, il y a l'Esprit de sagesse, en fait, le Saint-Esprit. On voit que la Trinité est présente. Et quelle est cette sagesse, cette révélation? En fait, dans Hébreux 1, verset 1, on dit qu'autrefois Dieu parlait à travers les prophètes, mais qu'aujourd'hui il parle à travers le Fils. Et notamment la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, qui révèle tout au sujet du Fils. Et cet esprit de sagesse et de révélation dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Et le but, on dit, pour qu'il illumine les yeux de leur cœur. Le but, c'est de mettre de la lumière dans les yeux de leur cœur. En gros, c'est une image. On peut dire que le cœur des Éphésiens, comme par le cœur, c'est l'être intérieur avec tout ce qui est l'intelligence, les sentiments, pour que leur cœur soit réceptif à ce que Dieu veut leur apprendre. Paul prie pour que les Éphésiens aient la connaissance. Il dit notamment « Sachez que » et en effet, la croissance en connaissance est indispensable à la croissance en sainteté. La croissance en connaissance est indispensable à la croissance en sainteté. Et quand on parle de connaissance, c'est pas juste l'intelligence. Mais en grec, on parlait de ça, c'était aussi l'expérience. L'intelligence, mais avec l'expérience. Il y a l'orthodoxie, l'orthodoxie. La bonne doctrine, mais également la bonne application de cette doctrine. Connaître Dieu, c'est un beau programme. Mais c'est impossible sans une révélation. Et c'est pourquoi Paul prie pour cette révélation, on le voit au verset 17. Il nous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Et il prie ensuite plus spécialement pour trois choses. Donc, Trinité présente, il prie pour l'espérance attachée à l'appel de Dieu, pour la gloire de son héritage et pour la grandeur de son pouvoir. Paul prie pour qu'il illumine leur cœur, pour qu'ils puissent comprendre l'espérance attachée à l'appel de Dieu, la gloire de son héritage et la grandeur de son pouvoir. Par rapport à l'espérance qui est attachée à l'appel, cette espérance, c'est d'être sauvé. Ne vous inquiétez pas, je vais venir dessus, là, je ne lisais pas tout matin. Cette espérance, c'est d'être sauvé par Jésus. C'est être pardonné de nos péchés une bonne fois pour toutes et pouvoir avoir cette relation rétablie avec Dieu. Romains 8, verset 30 dit « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc Dieu nous a appelés à une espérance, c'est-à-dire qu'il nous a appelés à la communion de son Fils. Quand vous avez des passages auxquels ils font référence, on ne va pas les lire parce que... Elle nous a appelés à être saints, elle nous a appelés à être libres, à ne plus retomber sur l'esclavage du péché, à former un seul corps pour connaître la paix du Christ, à vivre d'une manière digne, je dis un mot, de la vocation que nous avons, à nous supporter avec amour, mais aussi, parce qu'on croit qu'on est chrétien, on a la belle vie, non pas du tout, c'est pas que ça, c'est aussi subir la souffrance injuste et la patience, recevoir la gloire qui suit la souffrance, la gloire notamment dans le ciel avec notre récompense, de recevoir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. En somme, Dieu nous a appelés à Christ, il nous a appelés à la sainteté, à la liberté, à la paix, à la souffrance, à la gloire, en gros, c'est un appel à une vie complètement, radicalement différente. Une question qu'on pourrait se poser pour l'application de la question 3, c'est vis-tu cette vie radicalement différente avec Christ? C'est-à-dire connaître Jésus, l'aimer, l'obéir, servir, jouir de sa communion et de la communion des autres, et au-delà des souffrances présentes, fixer nos regards vers cette gloire future. Est-ce que si tu es dans une épreuve, tu arrives à fixer le regard sur Dieu en te disant wow, ok, je suis dans cette épreuve, mais je sais qu'il y a quelque chose de plus loin derrière. Et vous savez que dans les épreuves, souvent, les personnes sont les plus matures dans la foi, c'est ça que tu as le plus d'épreuves. Parce que plus les épreuves étaient difficiles, quand elles ont surmonté, après c'était encore plus solide. Voilà, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous apprend à travers tout le monde de notre vie. Donc, nous avons vu l'espérance attachée à l'appel de Dieu, et on va voir maintenant la gloire de son héritage. On parle d'héritage. Donc, déjà, l'espérance, ça marque le début de la vie chrétienne, et l'héritage, ça parle de la fin de la vie chrétienne. Ce héritage, il y a un parallèle dans Colossiens 1, verset 12, qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » L'héritage de Dieu, c'est en fait ça dessine ce que Dieu va nous donner au jour du jugement dernier. L'appel de Dieu que nous avons vu précédemment, donc ça pointait vers le commencement, et là on parle de l'héritage qui pointe vers la fin. Et cet héritage, déjà, on a eu comme héritage le don du Saint-Esprit, qui est le gage. C'est comme si on donnait un acompte, c'est donné d'avance, ok, tu vas avoir ton héritage, tu vas avoir l'argent quelque part si on était dans un héritage, mais en avance, je te donne une avance, je te donne un acompte. Et cet héritage, on en parle dans 1 Pierre 1, verset 4, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Vous avez réservé dans les cieux. Comme nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, on en parle dans Romains 8, verset 17. Et cet héritage sera nôtre. Il est impossible d'aller plus loin et d'imaginer d'autres choses que ce que nous allons voir. Ça ne sert à rien de s'imaginer, alors est-ce que mon héritage sera PlayStation 4 ou PlayStation 5, est-ce que mon héritage sera d'être milliardaire, est-ce que mon héritage sera. Je sais pas. Enfin, franchement, à part ce que nous dit la parole de Dieu, on ne peut pas. Tu refais des hypothèses, mais ça se passera plus sur nous, ça se passera sur la parole de Dieu. Ce que dit la Bible au sujet de cet héritage, c'est que nous verrons Dieu et Jésus et nous l'adorerons. Nous serons transformés lorsque nous le verrons et nous jouirons d'une communion fraternelle parfaite avec une énorme foule qui écrira Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Une belle foule de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Des personnes qui parlent Wolof ou Sénégal, des personnes qui parlent Paris, je suis incapable de français. Et le français. Les saints seront pleinement glorifiés, vous avez besoin de vous rappeler, prédestinés, adoptés, appelés, justifiés, ensuite glorifiés. Les saints, c'est-à-dire les chrétiens, seront pleinement glorifiés au jour du retour de Jésus-Christ. En attendant, nous allons commencer à être glorifiés dans notre cœur, à l'intérieur. Et ça devrait rejaillir à l'extérieur. Et en fait, au retour de Jésus, notre corps aussi sera glorifié du renom de Dieu. Et ça, on va le voir à 8:30, ce que Dieu a fait, il a justifié, il a aussi glorifié. Enfin, troisième chose que Paul veut pour eux, c'est la grandeur de son. En fait, c'est la grandeur de son pouvoir, du pouvoir de Dieu. Nous avons vu que d'un côté, il y avait l'appel de Dieu qui pointe vers le début de la vie chrétienne, l'héritage qui pointe vers la fin, et en fait, entre les deux, il y a une période intermédiaire dans laquelle agit la puissance de Dieu. Et cette période est très importante, car seule la puissance de Dieu peut répondre aux attentes de son appel. Il nous permet d'aller jusqu'au bout, il nous permet de persévérer. Mais quelle est cette puissance? À quel point est-elle grande? Dans la suite du passage, va nous guider, verset 20, verset 23, à comprendre cela. Cette puissance, en nous, verset 20, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. J'avais écrit une phrase de Philippe Guimond. Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Ensuite, on va voir que Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il a tout mis sous ses pieds et enfin qu'il a donné pour Dieu suprême à l'Église et son corps. Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, je pense qu'on en sait assez. L'homme ne peut pas se détacher. Le problème de l'homme, c'est qu'il y a la mort, le mal. Le mal en lui, depuis qu'il est né, depuis Adam et Ève, il y a cette maladie qui se transmet de génération en génération qui s'appelle le péché. Et la conséquence de ce péché, c'est notre mort. Mort physique, mais également mort spirituelle, de se séparer de Dieu. Mais Christ a vaincu ces deux puissances en mourant à la croix pour prendre tous nos péchés, afin que nous soyons. Nous ayons le Saint-Esprit, que nous soyons reconnectés avec Dieu, que nous soyons nés de nouveau, cette nouvelle naissance. On était morts, on est de nouveau. Et puis nous ayons cette connexion de nouveau avec le Seigneur, avec Dieu. Donc Dieu a vaincu ces deux puissances à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il peut donc nous en délivrer. Ensuite, deuxième chose, Dieu a fait asseoir Jésus-Christ à sa droite dans les lieux célestes. Il accomplit la prophétie de Psaume 110, verset 20, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous savez, le Psaume 110, verset 1, c'est un psaume. Lequel il parle de l'Éternel, on parle de l'Éternel Dieu, Dieu le Père, à mon Seigneur. Et à l'époque, peut-être qu'ils ne comprenaient pas forcément ce que ça voulait dire, mais Jésus dans les évangiles explique d'ailleurs ce que ça veut dire. Et en fait, mon Seigneur, le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Donc à ma droite, dans la prophétie du Psaume 110, il écrit à ma droite, assis-toi à ma droite, donc à la droite de Dieu, c'est accompli au verset 20 de notre passage d'aujourd'hui. Verset 20. Marche-pied,
en comparaison, il y a tout mis sous ses pieds au verset 22. Et ennemi, en fait, ça correspond, du coup, si on fait la correspondance logique entre les deux passages, bah, ça fait allusion à, aux dominations, aux autorités, aux puissances, aux unités. En gros, ça fait référence aux, aux démons, aux puissances spirituelles, néfastes ou mauvaises. Et Paul rappelle que Jésus est supérieur à toutes ces dénominations. Et il s'agit en fait, comme il dit, de toutes les formes d'autorité mauvaises ou moins spirituelles. Et comment on peut savoir si ce sont des autorités mauvaises? On va voir Éphésiens 6, verset 12, qui nous éclaire en expliquant que nous avons besoin de l'armure du chrétien pour combattre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants de la Dieu 7. Bref, la Bible éclaire la Bible, Éphésiens 6 aide à comprendre Éphésiens 1. Mais Jésus, lui, est Dieu. Il est supérieur à toutes ses autorités spirituelles. Il siège dans le ciel en tant que agneau immolé, Apocalypse 5, verset 6. Et tous ses serviteurs, les hommes élus et sauvés, ainsi que les anges, ne cessent de proclamer sa sainteté, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, et s'en va dans Apocalypse 4, verset 8. Et enfin, Dieu a donné pour chef suprême à l'Église Jésus-Christ qui est son corps. Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Jésus, donc pas seulement les choses matérielles, mais également les choses spirituelles. Christ règne donc sur tout l'univers, et sur tous les êtres qui peuvent cet univers. Jésus était déjà chef de l'univers, et là en fait Paul nous apprend qu'il est également chef de l'Église, la tête de l'Église. L'univers et l'Église ont donc le même chef. Mais un verset qui est assez compliqué peut-être à comprendre quand on lit pour la première fois, c'est le verset 23. Comprendre avec le verset 22, c'est une phrase, mais l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En fait, l'Église, c'est la plénitude de Christ, non parce qu'elle le remplit ou parce qu'elle le complète, Jésus-Christ n'a pas besoin quelque part de l'Église, mais parce que Dieu l'a rempli. On a un parallèle en fait en Colossiens 1, verset 19, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, toute la plénitude est en Jésus-Christ. L'Église en fait n'est pas le contenu, mais le contenant, c'est-à-dire le réceptacle qui est rempli par Christ. En d'autres termes, si on compare ça avec Éphésiens 4, verset 13 à 16, Christ qui est la tête, il est rempli de corps, de pouvoir, de mouvement, et ça permet, ça communique au corps tout entier. La vie et les directives. On voit aussi comme Christ était la tête, et que sans la tête, ben, le corps ne peut pas fonctionner en fait. Donc, Dieu a une puissance infinie qui agit avec efficacité, et c'est cette puissance même qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort, et qui l'a fait asseoir à la droite de Dieu, dans le ciel, au-dessus de tout. Et c'est cette même puissance en fait qui habite en nous, et en fait c'est le Saint-Esprit. Et Dieu le Père a tout mis sous le pied du Fils. Le meilleur dans tout ça, c'est que Jésus a été nommé comme chef suprême de l'Église, c'est-à-dire le chef de l'Église, son protecteur, son Seigneur. L'Église est le corps de Christ, et donc comme je l'ai dit, le réceptacle complet qui remplit le cœur de chaque chrétien. On peut voir comme implication pour nous que l'illumination du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit augmente la connaissance de Dieu, c'est ce que Paul, ce dont Paul parlait, et la réflexion personnelle, c'est-à-dire le fait de méditer, pour méditer, pour essayer de mieux comprendre par moi-même, sont indispensables l'un à l'autre. Je nous invite donc à prier pour être illuminés, que Dieu nous ouvre notre cœur pour comprendre, et à lire sa parole, à l'étudier, pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Et si nous comptons que sur la prière, parce que là je vais vous parler des problèmes, si on compte que sur l'un ou que sur l'autre, si nous comptons que sur la prière, nous ne progresserons pas dans le monde par magie. Et au contraire, si nous comptons que sur nos recherches personnelles, nous intellectualisons Dieu sans compter sur le Saint-Esprit. Et Paul, en fait, lui faisait les deux. Il priait pour que Dieu éclaire les Éphésiens et il fournissait ensuite les preuves historiques de son pouvoir, du pouvoir de Dieu, en parlant de la résurrection de Jésus. Attention à avoir cet équilibre entre l'illumination et la réflexion. Une autre implication, c'est que la raison et la connaissance sont indispensables l'un à l'autre. Souvent on dirait, moi j'ai entendu dire, t'es chrétien, mais c'est pas possible, t'es scientifique, tu peux pas être chrétien et être scientifique. C'est pas raisonnable de croire. En fait, si Paul lui-même écrit, sachez que, etc., et plus loin il dit, nous qui croyons, Paul nous associe les verbes croire et les verbes savoir. Nous devons connaître la puissance de Dieu, puis croire en elle et vivre par la foi grâce à elle. La raison et la foi ont besoin l'un de l'autre. La foi ne peut grandir sans une connaissance solide, et d'un autre côté, la connaissance, elle est stérile si elle n'est pas suivie par la foi. Plus savoir des choses, plus savoir, ça n'a pas de sens. Et enfin, une autre application pour nous, c'est est-ce que j'ai confiance, après avoir lu tout le chapitre 1, parce que Yann a déjà dit la semaine dernière, est-ce que j'ai conscience que j'ai été prédestiné, que je suis appelé enfant de Dieu, que je serai glorifié, que la même puissance qu'a resté Jésus-Christ, elle vit en moi avec le Saint-Esprit. J'aimerais conclure maintenant. Nous avons vu que l'intercession est importante. Et je crois vraiment qu'il y a une puissance dans l'intercession, le fait de prier les uns pour les autres. Je crois que Dieu écoute nos prières et nous suffit pour accomplir sa volonté. Et les prières que Paul faisait pour les Éphésiens, nous devons Dieu à y répondre. Et de même, je vous invite à prier les uns pour les autres, demander des sujets de prière. Prions pour nos missionnaires, en ce moment qui sont au Sénégal, peut-être bien dans une semaine maintenant, pour leur sécurité, pour leur santé, qu'elles sont fidèles à la prière, pour leur partage de l'Évangile. Et notamment que l'Évangile puisse être reçu de bon cœur, comme nous avons qu'il soit simplement. Une autre, par rapport à cette conclusion, j'aimerais aussi rappeler que la semaine dernière, on avait vu avec Eliane que la conséquence d'être le peuple de Dieu, c'est d'être la proclamation de l'Évangile à toutes les nations. Et nous avons souvent cette vision qu'un missionnaire, c'est quelqu'un qui part dans un pays étranger, avec des conditions de vie compliquées, etc. Mais en fait, non, un missionnaire, c'est quelqu'un qui obéit à Matthieu, 18 à 20, et cet ordre missionnaire a été donné à tous les disciples. Tous devaient former des disciples qui en formeraient d'autres. Ainsi, nous sommes quelque part tous missionnaires, que ce soit l'équipe qui est au Sénégal, que ce soit Samuel Eric, qui est réfugié à Calais, ou nous tous, dans notre environnement de travail ou dans nos études. Je vous invite à conclure. Saint Dieu, merci parce que nous avons vu à quel point c'est important d'avoir un cœur d'intercesseur, sinon de pouvoir être non seulement un modèle, mais que Dieu puisse te remercier pour qui nous sommes en toi et pour ce que tu fais à travers nous, mais également de pouvoir intercéder pour les autres et de te remercier pour ce que tu fais en nous. Vraiment merci pour cela. Nous te prions aussi pour que nous puissions comprendre à quel point l'importance de notre appel, du début de la vie chrétienne, de l'héritage qui est la fin de cette vie chrétienne, et enfin cette puissance qui nous permet de vivre entre les deux. Merci Seigneur parce que par nous-mêmes, ce serait impossible. Merci Seigneur parce que par la foi, les choses qui ont l'air impossibles deviennent possibles. Merci encore parce que c'est toi qui nous as donné cette foi et tout le monde. Merci pour chaque personne ici présente et je te prie Seigneur que on puisse ne pas repartir d'ici sans avoir fait quelque chose de toi. Je te prie Seigneur Jésus-Christ.